Journal présenté par Antoine Denecher. Bonjour Antoine.
Bonjour. Voilà une information qui ne surprendra pas forcément les connaisseurs des institutions européennes, mais qui est dénoncée depuis hier soir par une partie de la classe politique française. José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, est recruté par Goldman Sachs, la banque américaine impliquée dans le déclenchement de la crise financière de 2008. Notre invité en direct de Londres sera le journaliste Marc Roche, auteur d'un livre et d'un documentaire sur Goldman Sachs. À Varsovie, l'OTAN affiche son unité et sa fermeté face à la Russie. L'Alliance Atlantique officialise le renforcement de sa présence militaire en Europe de l'Est. Explication en direct avec Bruno Cadenne dans ce journal. Nous irons également au Sud-Soudan, 5 ans pile après l'indépendance. Le pays est ravagé par une guerre civile et des affrontements armés ont éclaté hier à Juba, la capitale, nous dira Patricia Huron. Puis à 12h40 sur France Culture, rendez-vous avec Julie Gacon, une semaine en France. Je vous le disais en titre, l'information a été annoncée hier après-midi par Goldman Sachs. Dans un communiqué, la banque d'investissement américaine annonce qu'elle recrute l'ancien président de la Commission européenne comme conseiller, comme président non exécutif de sa branche internationale basée à Londres. Je cite le communiqué, « José Manuel va apporter une analyse et une expérience immense à Goldman Sachs et notamment une profonde compréhension de l'Europe. » Bonjour Marc Roche.
Bonjour.
Vous êtes journaliste financier basé à Londres, auteur notamment du livre « La banque, comment Goldman Sachs dirige le monde » en 2011. Ce débauchage est dénoncé par plusieurs responsables politiques, alors surtout à gauche, mais aussi au Front National, et même au sein du gouvernement français, puisque ce matin, le secrétaire d'État au commerce extérieur, Matthias Fekel, voit, je cite, en Barroso, le représentant indécent d'une vieille Europe. Pour vous, Marc Roche, j'imagine que ce débauchage, c'est tout sauf une surprise ?
C'est pas du tout une surprise, parce que Goldman Sachs a l'habitude de recruter d'anciens commissaires européens, d'anciens gouverneurs de banques centrales qu'ils préfèrent aux anciens hommes politiques, aux ex-diplomates. Ils vont se servir de Barroso comme ouvreur de porte. Ils connaissent sur le bout des doigts les coulisses de la Commission européenne. Et en fait, il rejoint d'autres commissaires européens qui ont travaillé dans le passé pour Goldman Sachs, Mario Monti, Peter Sutherland ou Charlie McCreedy, qui en plus s'occupaient des services financiers, et il ne faut pas oublier le grand banquier central, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a travaillé pour Goldman avant d'être à Francfort. Donc, le recrutement de Barroso, c'est typiquement Goldman, c'est de l'entrisme au plus haut niveau, au mépris de conflits d'intérêts potentiels.
Marc Roche, ce recrutement de Barroso par Goldman Sachs pour des activités de conseil à Londres, justement, intervient juste après le Brexit, on imagine que ce n'est pas un hasard ?
Ce n'est pas un hasard du tout, c'est intimement lié, puisque Goldman Sachs International, que va présider Barroso, qui est la filiale européenne basée à Londres, a joué un rôle pivot dans le financement de la campagne du Remain, restée dans l'Union européenne, et Goldman avait prévenu qu'en cas de vote en faveur du Brexit, eh bien, délocaliserait certaines opérations. Ils ont 6000 employés à Londres et on parle de plusieurs milliers qui pourraient partir à Francfort ou à Paris, ou à Dublin, ou à Luxembourg. Et le rôle de Barroso sera en fait de les aider à mieux comprendre l'Union européenne et à choisir quel centre financier accueillera ces opérations, que ce soit le négoce en euros, des opérations transfrontalières, ou la gestion de fortune. Alors ce sera très intéressant, connaissant Barroso, qui quand même est un tropisme libéral, de savoir quels sont ses sentiments envers Paris, parce que lors de la crise financière, il était président de la Commission européenne, et il a eu énormément de problèmes avec Nicolas Sarkozy, qui le méprisait. En revanche, il était proche de Merkel.
Merci beaucoup Marc Roche, journaliste financier, auteur notamment avec Jérôme Fritel d'un documentaire en 2012, Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde. Le sommet de l'OTAN, deuxième et dernier jour à Varsovie. Les débats entre les 28 chefs d'État de l'Alliance Atlantique tournent autour de la Russie. Bonjour Bruno Cadenne.
Bonjour Antoine.
Vous êtes en direct de Varsovie. L'OTAN confirme le renforcement de sa présence militaire en Europe de l'Est.
Oui, les Polonais et les Baltes sont rassurés. L'OTAN a confirmé l'implantation chez eux de 4 bataillons de l'OTAN. C'est un soulagement pour Linas Linkevičius, le ministre lituanien des Affaires étrangères.
Nous n'avons pas de liste d'ennemis et nous n'allons pas en dresser, mais nous devons très sérieusement être conscients des risques et des défis qui existent autour de nous. Et c'est une évidence de dire qu'il y a des tensions dans la région à cause du comportement de la Fédération de Russie, à cause de l'agression contre l'Ukraine. Nous devons donc envoyer le message que nous sommes prêts à défendre nos populations et nos territoires en cas de menace, comme c'est stipulé dans le traité de Washington. Et le seul argument qui peut impressionner nos opposants, ce sont des mesures tangibles et visibles.
Sur une différence d'appréciation de la menace russe entre Européens de l'Ouest et de l'Est, la Lituanie se veut diplomatiquement rassurante. Linas Linkevičius.
Dans nos discussions, je n'ai jamais noté de telles distinctions. Honnêtement, il y a des spécificités, des différences, mais je ne peux vraiment pas dire que nous sommes divisés entre Est et Ouest.
Et ce matin, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a confirmé cette position en déclarant « Nous sommes unis face à la Russie ».
Merci Bruno Cadenne en direct de Varsovie. Merci à vos côtés à Eric Damadjo pour les moyens techniques. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il fut pendant 4 ans le commandant en chef de l'armée de terre au Chili. Et aujourd'hui, il est rattrapé par son passé. Juan Emilio Cheyre vient d'être arrêté pour son rôle dans la caravane de la mort il y a 43 ans, Claire Martin.
Juan Emilio Cheyre a été arrêté et mis en examen avec 8 autres officiers pour complicité d'homicide qualifié. L'ancien commandant en chef de l'armée de terre entre 2002 et 2006 est poursuivi pour des faits qui remontent à 1973. Il a alors 25 ans. Son régiment est basé dans une ville du nord du Chili, La Serena. 15 prisonniers politiques y sont fusillés un mois après le coup d'État qui plonge le pays dans la dictature, lors du passage de la caravane de la mort. Un escadron chargé de tuer les prisonniers politiques tout au long du pays. Plus de 40 ans après, donc, le couperet de la justice tombe enfin. Les familles de victimes se félicitent. L'ancien commandant plaide, lui, l'innocence. Son avocat crie à la persécution politique. Il faut dire que la justice chilienne vient de s'attaquer à un symbole de la réconciliation tant désiré par le monde politique depuis le retour de la démocratie. Cheyre est le commandant en chef qui a reconnu les crimes commis par son institution sous la dictature d'Augusto Pinochet dans les années 70 et 80. Celui qui a dit « Plus jamais ça, nunca más ». Son arrestation fissure les efforts du monde politique pour construire une démocratie sans mémoire qui fait table rase du passé et blanchit les anciens bourreaux au nom de la paix et de l'unité.
Merci Claire Martin au Chili pour France Culture. Le Soudan du Sud est le plus jeune État du monde et aurait dû célébrer aujourd'hui le 5e anniversaire de son indépendance. Mais l'ambiance n'est pas à la fête dans un pays en proie à un conflit depuis décembre 2013. Malgré le retour de l'ancien chef rebelle Riek Machar à Juba, la capitale, et la formation d'un gouvernement de transition, la situation reste très tendue avec même des affrontements hier à Juba, Patricia Huon.
Il n'y aura pas de cérémonie cette année pour le 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Les caisses de l'État sont vides et l'atmosphère n'est pas aux célébrations alors que des affrontements ont eu lieu hier dans la capitale Djouba. Le retour de l'ancien chef rebelle Riek Machar a marqué une étape importante dans la tentative d'application de l'accord de paix signé en août 2015. Mais les tensions restent fortes et les obstacles à la réconciliation sont nombreux. Hier soir, des échanges de tirs ont eu lieu autour du palais présidentiel. Le président Salva Kiir et son vice-président réintégré Riek Machar s'y trouvaient ensemble pour une réunion et une conférence de presse. Qui est impliqué dans ces violences n'est pas confirmé. L'explication la plus probable est celle de combats entre les troupes loyales au président et celles de l'ex-rébellion. Mais il pourrait aussi s'agir d'une attaque de factions dissidentes au sein de l'armée. Selon les médias locaux, au moins 150 soldats auraient été tués et on dénombre aussi des victimes civiles. Le président et le vice-président, dans une déclaration commune, ont appelé au calme. Ces dernières semaines, il y a aussi eu des combats dans d'autres régions du pays. Un triste anniversaire pour le Soudan du Sud. L'accord de paix semble sur le point de s'effondrer et le moindre incident pourrait relancer le conflit.
Une correspondance de Patricia Huon pour France Culture. Un mot sur Dallas, où Barack Obama est attendu en début de semaine après la tuerie de jeudi soir. 5 policiers abattus, 7 blessés par un sniper. Micah Johnson, 25 ans, un jeune jusque-là sans histoire, qui avait servi en Afghanistan pour l'armée américaine. La campagne présidentielle aux États-Unis est suspendue et tous les drapeaux sont en berne. La météo, soleil et chaleur pour tout le monde cet après-midi encore. Les températures seront encore un peu plus élevées qu'hier. 22 à 30 degrés sur la moitié nord, 29 jusqu'à 37 au sud. Sud. Grand merci à François-Charles Domergue pour son aide et à Jacques Hubert à la prise de son.